VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Présidentiel en Centrafrique, deux anciens premiers ministres, Anicien Georges Dologuele et Faustin Archange Touadéra, sont arrivés en tête au premier tour, selon les résultats provisoires annoncés par l'Autorité nationale des élections. Dologuele, patron de l'URC à l'Union pour la Renaissance de la Centrafrique, qui a recueilli 23,78% des suffrages, compte nouer des partenariats pour un second tour. On l'écoute.
Oui, bien sûr, on peut pas aller à un deuxième tour dans un système où on a eu 30 compétiteurs sans nécessairement avoir un partenariat avec certains d'entre eux, hein, sinon la totalité si possible. Parce que vous savez, demain, ce qui va se passer en Centrafrique, on aura besoin de beaucoup d'hommes de qualité pour résoudre les nombreux problèmes du pays. Donc chaque homme politique qui peut apporter quelque chose d'intéressant.
Son principal rival, le candidat indépendant Faustin Archange Touadéra, a recueilli 19,42% des voix. Il affirme ne pas manquer d'atouts pour l'emporter au second tour.
Mais bien de raison. Comme vous le savez, moi, j'ai été Premier ministre dans un passé très très récent, pendant 5 ans. Donc, il y a eu du travail qui a été fait, j'ai un bilan. Donc ça, c'est un élément important. Et deuxièmement, j'ai un projet de société. Un projet de société où je propose une vision aux Centrafricains. Si on regarde bien ce projet de société, il y a des priorités. La première priorité, selon notre point de vue, c'est la paix et la réconciliation nationale. Une fois élu, il nous faut prendre des dispositions pour que la paix véritable revienne et la réconciliation nationale, qui est la cohésion sociale.
Les deux finalistes s'affronteront le 31 janvier au second tour des présidentielles si les résultats provisoires sont validés par la Cour constitutionnelle en RCA. Au Burundi, le verdict au procès des putschistes des 13 et 14 mai 2015 sera prononcé le 14 janvier prochain. Entre-temps, la défense continue de présenter des arguments pour prouver que le procès n'a pas été équitable. C'est le cas de Maître Fabien Segatoa, l'un des avocats des prévenus.
Il n'appartient pas au prévenu de prouver son innocence. Il appartient au ministère public de prouver la culpabilité par des éléments de preuve produits dans le dossier ou alors par des témoins, parce que les témoins sont également des éléments de preuve. Mais ce qui est prévu par la loi, c'est que tous ces éléments de preuve doivent être produits à l'audience et combattus contradictoirement à l'audience, parce que le prévenu a le droit de s'opposer à ce qu'un témoin dit à l'audience et il doit le dire à l'audience.
Maître Fabien Segatoa, l'un des avocats des prévenus au procès des putschistes du Burundi. À Djibouti, plusieurs membres de l'opposition et le président de la Ligue des droits de l'homme sont toujours aux arrêts depuis le 21 décembre. Ce petit pays de la Corne de l'Afrique doit tenir des élections dans 3 mois. Le président Ismaïl Omar Guelleh brigue 4e mandat. Mohamed Chorki, analyste djiboutien basé à Houston au Texas, analyse la situation politique de Djibouti.
Le problème à Djibouti, depuis la cession du pays à l'indépendance, nous n'avons pas une culture politique. À Djibouti, c'est le néant total. C'est une seule radio, une télévision et un journal que le pouvoir contrôle. Pendant ces années-là, il y a une culture politique qui a complètement disparu à Djibouti. Nous arrivons depuis 77, rien. Et avec l'USN, depuis 3 ans, il y a une renaissance politique à Djibouti. C'est vrai, comme vous dites, il y a une opposition alimentaire. Il y a des hommes qui gravitent autour du pouvoir pour des gains personnels. Ce sont ces gens-là que le président Ismaïl Omar Guelleh veut avoir en face de lui. Il ne veut pas un candidat sérieux de l'opposition. Et l'USN est fragmenté. Il y a 3 ou 4 personnes qui veulent se présenter à la présidence, ce qui est légitime. Mais pour le moment, c'est un apprentissage démocratique. L'USN est venue depuis 3 ans sur le paysage politique djiboutien. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Il y a un dynamisme, il y a des gens qui ressortent de leur sommeil et qui veulent se battre contre ce régime-là. On veut changer.
Mohamed Chorki, analyste djiboutien basé à Houston, au Texas, ici aux États-Unis. Au Kenya, un enseignant du primaire a été condamné hier à 20 ans de prison. Il recrutait ses jeunes élèves pour les chebabs somaliens. Félix Yepassi Zembrou.
Le juge a retenu que Samuel Wanjala Wabiele, alias Salim Mohamed Wabiele, a profité de la pauvreté dans la ville côtière de Kilifi. Il aurait soudoyé les enfants qui marchaient pieds nus et en haillons en leur offrant le gîte et le couvert. Wabiele a été arrêté en juin dernier et devait répondre de 3 chefs d'accusation, dont celui d'appartenance au groupe islamiste Chebab. Le tribunal l'a reconnu coupable d'avoir radicalisé ses élèves pendant ses enseignements coraniques avant de les envoyer grossir les rangs des Chebabs en Somalie voisine. D'après les responsables kényans, plusieurs dizaines de jeunes ont fait la traversée ces trois dernières années pour être formés dans des camps d'entraînement des djihadistes somaliens. Les Chebabs sont accusés dans de nombreuses attaques au Kenya, y compris pour le massacre à l'université de Garissa où 148 personnes ont été tuées en avril dernier.
Conflit au Soudan du Sud maintenant. Mise en œuvre de l'accord de paix sud-soudanais d'août 2015, le président Salva Kiir et son adversaire et ex-vice-président Riek Machar se partagent les postes ministériels du futur gouvernement d'unité nationale. Le gouvernement du président Salva Kiir désignera 16 ministres, y compris ceux des finances, de la défense et de la justice. Le camp de Riek Machar, lui, disposera de 10 portefeuilles, notamment ceux du pétrole et de l'intérieur. 4 postes sont mis à la disposition de groupes moins importants. Toutefois, le communiqué de Festus Mogae, le médiateur dans la crise soudanaise, ne précise pas quand est-ce que ces postes seront attribués.
VOA Afrique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest, maintenant au Burkina Faso, le tout nouveau Premier ministre Paul Kaba Tiéba entend baser son action sur la jeunesse, fer de lance de l'insurrection qui a bravé les coups de fusil pour contrer le coup d'État. Monsieur Tiéba s'est exprimé pour la première fois hier lors d'une conférence de presse à Ouagadougou.
Les jeunes de ce pays-là ont pris la responsabilité de marcher dans la rue, de braver les armes, de braver la mort pour mettre fin à ce régime-là. Les jeunes de ce pays se sont également battus pour lutter contre la tentative de récupération donc, du pouvoir à travers le coup d'État manqué. Ce courage de la jeunesse, cette clairvoyance de la jeunesse, cette détermination de la jeunesse nous interpelle. Elle montre que nous sommes, si nous le voulons, en mesure de prendre notre destin en main et de construire un avenir. Et donc le souvenir des martyrs qui sont tombés lors de ces deux événements, à savoir les événements de l'insurrection du 30 octobre 2014 et la résistance farouche que la jeunesse a eu à manifester à la tentative de coup d'État de septembre 2015, démontre à souhait que la jeunesse burkinabé aujourd'hui est mature. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de changement. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de démocratie. Elle a besoin de progrès économique et social qui sont à la hauteur des sacrifices consentis. Je pense que la politique que le chef de l'État va impulser sera en mesure de répondre aux attentes de la population, de répondre aux attentes des jeunes en termes d'emploi, en termes de démocratie, en termes de progrès social.
Paul Kaba Tiéba, Premier ministre du Burkina Faso, au micro de Zoumana Ronogo, notre correspondant à Ouagadougou. Bénin maintenant, l'économiste Abdoulaye Bio Tchane, ancien patron de la Banque Ouest Africaine de Développement et ex-cadre du Fonds Monétaire International, a annoncé sa candidature à la présidentielle du mois prochain. Les précisions de John Lyndon.
C'est la seconde fois qu'Abdoulaye Bio Tchane, âgé de 64 ans et père de 3 enfants, se présente à la présidentielle. Il était déjà candidat lors de l'élection de 2011, dans laquelle il avait fait figure de troisième homme. Réunissant quelques milliers de partisans de son parti, l'Alliance pour un Bénin triomphant dans le stade Charles de Gaulle de Porto Novo, il a fait jeudi la promesse choc de créer 500 000 emplois par an. À quelques jours de la date butoir du dépôt de candidature, deux des hommes d'affaires les plus puissants du Bénin, le magnat du coton Patrice Talon et le roi de l'agroalimentaire Sébastien Ajavon, ont déjà annoncé se lancer dans la course à la présidence. Le parti des forces Kori pour un Bénin émergent du président sortant Thomas Boni Yayi a quant à lui présenté la candidature du franco-béninois Lionel Zinsou, actuel Premier ministre, pour lui succéder. Certains accusent déjà ce banquier d'affaires, qui a effectué une grande partie de sa carrière en France, d'être le candidat téléguidé de l'ancienne puissance coloniale. Le premier tour de l'élection présidentielle doit se dérouler le 28 février.
Et au Nigeria, les membres de mouvement chiite réclament la libération de leur chef, le cheikh Ibrahim Zakzaki, arrêté il y a plus de 3 semaines par l'armée et détenu au secret. D'après l'AFP, des affrontements meurtriers entre des fidèles de ce mouvement et l'armée en décembre font craindre un risque de dérive violente de ce mouvement, y compris un possible scénario à la Boko Haram. L'armée et la police assurent que le cheikh Zakzaki, 62 ans, à la tête du mouvement islamique du Nigeria, IMN, est toujours en vie et qu'il se porte bien, mais on est sans nouvelles de lui depuis son arrestation le 13 décembre et l'IMN s'inquiète de son état de santé. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.